Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Alors que les chrétiens s'apprêtent ce dimanche à entrer dans l'Avent, la France, elle retient son souffle avant la grève du 5 décembre prochain. À l'appel de nombreuses organisations syndicales, grève dont on se demande à demi-mot si elle va paralyser la France comme en 1995. Entre le temps long de la liturgie, le temps court de l'actualité sociale française, le temps de l'histoire, si l'on peut utiliser cette expression, est très probablement celui qui caractérise deux grands événements internationaux dont on va parler ce matin, la révolte de la société civile au Liban et la condamnation définitive de l'arme atomique par le pape François. De quoi débattre, et cela tombe bien. Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce vendredi. On reprend les bonnes habitudes. Il y a déjà quelques temps qu'on les a repris, mais on est toujours content. Autour du plateau, ce mois-ci, Bruno Cyr, économiste, président honoraire de l'Université Toulousain Capitole. Bonjour.
Bonjour.
Alain Cérizola, diacre et ancien président du Secours catholique Ariège, Haute-Garonne. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Il devait y avoir Emmanuel Perrier, je le dis, parce que voilà, comme ça on se dit qu'on continue à l'inviter, mais il s'est fait excuser, entre autres auprès des auditeurs et de vous, parce qu'il est malade et il a perdu sa voix. Alors comme on a un peu plus de temps, on a trois sujets aujourd'hui, donc la situation au Liban, la situation sociale française, comme je l'ai dit dans l'introduction, et donc la question du nucléaire et le voyage du pape François donc au Japon et ses déclarations. Je vais vous demander juste une réaction donc sur les morts que la France pleure. C'était le titre, en tout cas, de la double page d'ouverture du journal La Croix mercredi dernier. L'armée française pleure la mort des siens au Mali. Morts, donc 13 militaires français de la force Barkhane qui sont morts. Je lis juste le début de l'éditorial de Guillaume Goubert, directeur de la rédaction. En choisissant d'être les délégués de tout un peuple pour sa défense, vous avez donné à votre existence un horizon infiniment plus grand que vous. C'était les mots d'Emmanuel Macron le 11 novembre dernier, qui s'adressait donc aux soldats présents lors de l'inauguration du monument honorant les militaires tombés en opération hors du territoire national. C'est souvent comme ça d'abord qu'on réagit, ou tout d'un coup on prend conscience qu'il y a des gens qui travaillent et qui donnent leur vie pour nous, et que la guerre est à notre porte, et que la France est en guerre. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction? On va commencer avec vous, Alain Cérizola.
Oui, cet événement dramatique, c'est toujours très triste de voir des morts, et notamment des soldats français. Ça permet deux choses. Ça permet de prendre conscience d'abord que la France est engagée à l'extérieur de ses frontières pour soutenir différents peuples, et notamment au Mali. Et puis, la deuxième chose, c'est ce débat, cette réaction, faut-il être présent au Mali ou pas? Et c'est une question difficile, je ne suis pas compétent pour répondre, mais je trouve peut-être un petit peu indécent certaines réactions à chaud, alors qu'il y a 13 morts, 13 soldats français qui sont décédés, des prises de position un petit peu abruptes. Je crois qu'on est dans un premier temps où il faut prendre conscience, faire mémoire de ces soldats qui sont décédés au service de la France.
Délégués de tout un peuple pour sa défense, c'est aussi une expression qui était utilisée dans cet éditorial.
Absolument. La France est au Mali pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre Daesh. Alors, est-ce le bon moyen, est-ce pas le bon moyen? Je ne sais pas répondre. Ce que je constate, c'est que la France est un petit peu isolée au Mali, elle est toute seule, et au niveau européen, il n'y a pas le soutien qui serait nécessaire. Voilà ce que je peux dire à chaud sur cet événement.
Bruno Cyr, on dit aussi donc que cet engagement des forces françaises, c'est le plus grand théâtre d'opération donc de la France depuis la guerre d'Algérie. Donc c'est plus de 4 000 hommes, vous disiez.
Oui, entre 4 et 5 000 hommes qui sont par là, et beaucoup de matériel, et donc en amont ou en aval de tout ça, en France, un certain nombre de ressources mobilisées aussi. Donc c'est vrai que pour un pays comme le nôtre, c'est pas rien, c'est pas neutre d'être là. Alors pourquoi est-on là et pourquoi faut-il, à mon avis, y rester? Bien parce que on a un devoir vis-à-vis de de toute cette Afrique francophone qui a quand même des relations très étroites avec nous, bien sûr historiques, mais aussi économiques, culturelles, et donc vis-à-vis de ça, la France a une responsabilité. C'est vrai, comme le disait Alain Cerisola, que la France est très isolée sur ce théâtre d'opération. Mais au fond, c'est un peu les autres pays qui lui ont délégué le soin là de veiller à ce que les droits de l'homme et que le respect des uns et des autres soient préservés. Je trouve que la France a ce devoir un peu humanitaire de faire la police dans ces contrées qui sont difficiles. En arrière-plan, évidemment, il ne faut pas être complètement naïf, il y a aussi des intérêts économiques pour la France, notamment au Mali et dans toute cette région. Il y a des sources de production d'uranium qui sont utiles pour nos centrales nucléaires, il ne faut pas se le cacher. Donc c'est pas, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter non plus à cette question, et il faut voir la vision humanitaire de cette opération. Alors évidemment, on ne peut que regretter qu'il y ait des morts, surtout dans un accident tragique comme ça. Mais malheureusement, dès qu'on s'engage dans des conflits, c'est le risque qu'il faut courir et qui de temps en temps arrive.
Allez, on passe au Liban, après cette réaction à chaud. Au Liban, pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais c'est difficile, donc il y a des manifestations gigantesques depuis donc le 17 octobre dernier. Tout est parti, semble-t-il, d'une taxe sur les communications téléphoniques via les applications téléphones de 6 $ par mois. Cela a suffi à mettre le feu aux poudres de toute une société civile vent debout contre sa classe politique, considérant qu'elle est corrompue et qu'il faut changer, j'allais dire, de système politique presque. S'en sont suivies donc des manifestations répétées, au cri de « révolution, révolution ». Le peuple veut la chute du régime avec l'hymne national, le drapeau libanais. Plein d'autres choses à dire. Peut-être on peut dire que le 27 octobre dernier, il y a eu une chaîne humaine du nord au sud du pays sur 170 km le long de la côte, même s'il y avait quelques trous. Et que ces derniers jours, il y a eu à nouveau des manifestations et des heures, cette fois avec des partisans du Hezbollah, donc ce mouvement chiite, où les manifestants se sont fait plus que chahuter. Je vous propose d'abord une réaction générale, et puis après on rentrera un peu dans le creux et dans le détail, et entre autres on se penchera sur la réaction des autorités religieuses qui jouent un rôle, semble-t-il, capital à cette occasion. Dans l'autre ordre, Bruno Cyr, quand vous suivez cela, qu'est-ce que d'abord ça vous inspire ?
Alors, je trouve que c'est...
De l'admiration ?
De l'admiration, non. C'est pas dans ce registre-là. Mais beaucoup d'intérêt, en tout cas. Beaucoup d'intérêt, parce que je trouve que c'est un mouvement qui peut être symptomatique de notre époque et qui peut être mutatis mutandis, transposé à bien des contextes et peut servir d'exemple. Je m'explique. Ce qui se passe dans ce pays depuis plusieurs générations maintenant, plusieurs décennies, c'est une dérive par une caste politique qui a un peu mis en coupe réglée le pays et qui, effectivement, est constitutionnellement, avec une alternance du pouvoir, mais finalement s'est laissé gangréner par la corruption. Et il y a...
Est-ce qu'on peut donner juste des illustrations ? Est-ce que vous en avez lu ? Parce que la question de la corruption, on l'a beaucoup lu, mais après, moi, j'ai pas vu, entre guillemets, dans le détail, ce que ça donnait.
Par exemple, tout ce qui est permis de construire et exploitation des bords de mer, il y a en ce moment des programmes qui, comme par hasard, des amis de la famille Hariri se retrouvent à construire des hôtels en bord de mer dans des zones qui étaient absolument interdites pour tous les autres. Donc ça, ce sont des choses qui ont du mal à passer. Il y a aussi, dans tous les marchés publics, une absence de transparence qui choque beaucoup de monde, donc y compris beaucoup de petits entrepreneurs qui se retrouvent plus ou moins écartés, qui savent que s'il n'y a pas de pot de vin, ça ne marchera pas. J'ai des amis libanais qui m'attestent que ça prend des proportions qui sont catastrophiques. Donc, visiblement, c'est un endroit où ce principe de la corruption, qu'on retrouve dans beaucoup de pays, devient le mode de fonctionnement. Et ça, Il y a un rejet de la jeunesse. C'est en ça que ce mouvement est très intéressant, parce qu'on se rend compte qu'il y a toute une jeunesse de ce pays, vous l'avez dit, l'illustration, ça a été cette chaîne au mois d'octobre, qui se réunit jour après jour, de plus en plus nombreux, pour dire stop, il y en a marre de ça.
Toute classe sociale confondue ?
Oui, toute classe sociale, toute confession.
Toute confession confondue.
Confondue, ce qui est symptomatique. Donc il y a une espèce de dégagisme, passez-moi ce mot un peu à la mode, vis-à-vis d'une classe politique que l'on retrouve dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, et d'une aspiration à la démocratie de la part notamment de la jeunesse, qui est tout à fait intéressante.
On pense à Hong Kong, entre autres.
On peut penser à Hong Kong, on peut penser à beaucoup de pays d'Afrique du Nord aussi, où on a plus ou moins ces mêmes mouvements. On peut penser peut-être aussi à des pays européens, où on se rend compte qu'il y a quand même des mouvements de jeunes sur des sujets de société qui sont en train de dire la classe politique qui est au-dessus de nous n'a pas traité les problèmes comme il faut. Bon. Donc là, c'est exactement ce qu'ils disent. Et ils le font avec non-violence, avec pacifisme. Je crois que c'est un début de révolution non-violente. C'est en ça que c'est très intéressant et qu'il faut regarder ce qui se passe. Alors évidemment, face à ça, la classe politique installée réagit en disant qu'ils sont à la solde des pays étrangers, etc. Mais ce sont de vieilles ficelles. Je crois que ça ne correspond pas à la réalité du terrain. Donc je trouve que c'est un mouvement qui est vraiment intéressant à suivre.
Alain Cérisola, et puis après je vous lancerai sur les... La réaction des chefs religieux, en l'occurrence des chefs religieux chrétiens.
Oui, ce que vient de dire Bruno Cyr, et je suis complètement d'accord avec lui, ce mouvement est à regarder avec intérêt, parce que c'est sûr que comme dans beaucoup de pays au monde actuellement, ça a été dit, en France, mais en Afrique du Nord, au Chili, au Brésil, au Soudan, en Algérie, il y a une aspiration forte à la démocratie. Bon, mais ce qui se passe au Liban est, je dirais, multifactoriel. Il y a différentes raisons qui font ça. Il y a la crise économique, d'abord. Il y a une crise économique grave. Le pays est aux limites de la faillite.
J'ai vu qu'il y avait un quart des Libanais qui étaient sous le seuil de pauvreté.
Oui, c'est ça.
Selon la Banque mondiale.
Moi, le chiffre que j'avais, c'était effectivement 30%, donc un peu plus qu'un quart, sous le seuil de pauvreté. C'est tout à fait important. Il y a aussi toute cette question des réfugiés consécutifs à la guerre en Syrie. Il y a 1 500 000 réfugiés au Liban, donc ça a des impacts, et de majorité d'ailleurs sunnite, ce qui n'est pas neutre dans le contexte actuel. Il y a aussi, ça a été dit, tout ce problème de corruption, ça a été cité au niveau de la construction, j'ai lu aussi qu'au niveau de l'énergie, que l'État ne fournit qu'un petit peu d'énergie, que ce soit l'électricité fournie par des sociétés privées moyennant des bakchiches et tout. Donc cette crise est multifactorielle. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ça dépasse le seul cadre confessionnel. La guerre de 75 à 90 au Liban était des causes religieuses. Mais là, les Libanais sont unis. Les Libanais sont unis. Il y a une unité nationale qui se dessine pour, comme ça a été dit, changer de régime. Changer de régime, c'est-à-dire mettre à bas les différentes castes, les différentes dynasties qui existent, qui règnent sur le pays, qui tiennent le pays depuis longtemps. Et c'est pour ça que ce mouvement est à regarder avec intérêt. Il y a une aspiration, notamment de la jeunesse, vous l'avez dit, pour une véritable démocratie, un nouveau pouvoir. Donc j'espère, c'est relativement non violent actuellement, j'espère que ça continuera, et j'espère aussi qu'ils sauront trouver la bonne issue, parce que souvent dans les révolutions qui se font, c'est l'après-révolution qui pose problème pour qui peut assumer le pouvoir.
Alors il faut dire aussi donc, que le 29 octobre dernier, donc, le Premier ministre Saad Hariri a démissionné. Autre événement dans le calendrier, le 24 novembre a été lancé donc, l'appel de Bguerke. Je crois qu'on prononce comme ça. Ce sont donc les chefs religieux chrétiens qui se sont réunis et qui, toutes confessions confondues, responsables catholiques, orthodoxes et protestants, il y a beaucoup de chrétiens là-bas, en tout cas de différentes confessions, donc ont lancé derrière le patriarche maronite, le cardinal Béchara Boutros Rai, un appel et un soutien large à ce mouvement. Je cite juste un passage. « Au peuple qui a manifesté son unité, ils appellent à embrasser et protéger la révolte légitime de nos enfants, oui. soulignant l'urgence que le pouvoir et le gouvernement répondent à leurs revendications nationales. Ils ont aussi dit leur soutien aux premières mesures avancées donc par le Premier ministre, avant qu'il décide, en tout cas esquissé par le Premier ministre, avant qu'il ne démissionne. Et j'ai même vu donc à l'occasion de cette réunion, alors j'en trouve plus son nom, mais il y avait des chefs religieux musulmans aussi qui étaient présents. On voit aussi ça, Bruno Cyr, dans beaucoup d'endroits de par le monde. J'ai souvenir en République démocratique du Congo lors des dernières élections, au Venezuela, l'Église, les chrétiens, dans certaines situations limites. On a l'impression que c'est la dernière force qui tient une société civile et qui désigne le bien. Est-ce aussi votre sentiment ?
J'aimerais que ça soit comme ça partout.
Mais, je n'ai pas dit que c'était le cas partout. Hein.
Oui,
mais on parle du Liban en l'occurrence.
Au Liban, il est vrai que le fait religieux est très installé. Et qu'on a au Liban, en modèle réduit, un peu potentiellement tout le résumé du débat entre l'Orient, l'Occident et nos pays européens.
Est-ce que vous pouvez rappeler aussi en deux mots quel est le modèle politique et du coup un peu religieux particulier au Liban ?
Alors, dans la Constitution, il y a un principe d'alternance constitutionnelle, donc ne peut pas se présenter qui veut, où ils se sont partagés le pouvoir entre les différents courants religieux, en gros entre les sunnites, les maronites, les musulmans d'un côté, les chrétiens de l'autre, ou les orthodoxes de l'autre. Donc il y a une sorte de partage, et ce sont plus ou moins des familles qui, de fait, il y a 4 ou 5 familles qui dominent dans le pays et qui dirigent le pays sur ce principe d'alternance.
Donc ça donne aujourd'hui un président chrétien,
en
l'occurrence, Michel Aoun.
Qui est un chrétien maronite.
Voilà. Hein, Premier ministre Saad Hariri.
Premier ministre est effectivement sunnite, musulman sunnite. Le président de l'Assemblée nationale est un musulman chiite. Hein, ouais. Et le vice-premier ministre et le porte-parole du gouvernement sont des chrétiens orthodoxes. Donc ils se partagent de pouvoir, ce qui fait que le système est un petit peu voilà. verrouillé.
Et ça a donné du coup cette expression de Jean-Paul II, je crois que c'est le pays messager, pays message, avait dit Jean-Paul II lorsqu'il était allé au Liban. Ouais. Laissons entendre qu'il a un message à donner à toute une partie du monde. Bruno Cyr, si
oui.
vous deviez, alors vous dites vous émettez des réserves sur le...
Oui, j'émets des réserves parce qu'au bout d'un moment, malheureusement, il n'y a pas de véritable alternance, si vous voulez. Il y a le sentiment pour tout un tas de gens qui souffrent pour les raisons qu'on a indiquées tout à l'heure, qu'il y a une caste au pouvoir qui monopolise le pouvoir, qui se l'accapare et qui dilapide les richesses du pays. C'est le sentiment qu'il y a aujourd'hui. Donc la jeunesse se révolte et dit « on veut ». Un gouvernement de technocrates.
Mais ma question, c'était sur les chefs religieux chrétiens. C'est quand même tout à leur honneur que d'essayer de tenir, de désigner le bien en pareille circonstance.
Moi, je suis évidemment ravi, mais en même temps pas surpris que les chrétiens là-dedans disent « Attendez, il faut écouter les jeunes ». Parce qu'effectivement, il n'y a pas de projet politique inscrit dans la communauté chrétienne. Hein. Il y a un principe d'alternance parce qu'ils ne voulaient pas être laminés, mais ils n'ont pas un projet de faire un État chrétien spécialement. Donc à un moment donné, ils disent... entre guillemets, je le lis comme ça, nous avons peut-être été trop loin, il faut redonner à la jeunesse un espoir, une possibilité de se développer de façon harmonieuse dans ce pays, et donc il faut écouter la jeunesse. C'est tout à l'honneur de le dire, parce que je ne suis pas sûr que les autres communautés embrayeraient le pas aussi facilement. Donc c'est très bien que les chrétiens jouent ce rôle-là, je trouve que c'est le rôle qu'ils doivent jouer partout, hein, et avec une séparation un peu de l'Église des Deltas dans une laïcité bien comprise, moi je trouve ça formidable, j'espère que ça marchera. Ma crainte, évidemment, c'est que les gens en place ne veuillent pas lâcher le pouvoir, et donc il y a toujours dans ce genre de choses trois forces en présence. Les politiques en place, la jeunesse là qui demande une révolution de fait des institutions, et puis l'armée. Et donc voilà, c'est
l'armée qui est saluée dans cet appel de Bjerke, disant que responsables religieux saluant l'attitude des militaires.
Et là, c'est là où on peut avoir de l'espoir, parce qu'effectivement. Visiblement, dans les manifestations un peu violentes qu'il y a eu et qui étaient le fait de membres du Hezbollah, l'armée a protégé les manifestants. Et donc c'est mis de fait du côté des manifestants. Donc je trouve ça très encourageant. L'armée aura sûrement un rôle à jouer là-dedans si on ne veut pas que ça devienne une pétaudière, parce que comme le disait Alain Cerisola, c'est l'après qui est important dans tout ça. C'est bien beau de renverser la table, mais qu'est-ce qu'on met après? Voilà, il y a une chose à construire. Ce que je sais, pas par les réseaux que j'ai là-bas, c'est que ce qu'ils demandent, c'est un pouvoir démocrate. Ils ne veulent pas revenir sur le principe d'une alternance, que chacun s'y retrouve dans le système démocratique, mais ils veulent des technocrates indépendants qui gèrent le pays de façon honnête.
Bruno Cyr, on arrête là, juste parce que le temps passe. On peut juste aussi dire à propos donc, du Hezbollah que son chef Hassan Nasrallah, lui, a menacé le peuple du recours à la violence à l'occasion de ces manifestations. Alain Cerisola, je suis désolé, mais si on veut parler des autres sujets, il faut qu'on avance. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour parler cette fois de la réforme des retraites.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Rendez-vous actualité donc mensuel. Rendez-vous apprécié des auditeurs. Autour du plateau, Bruno Cyr, économiste, président honoraire de l'Université Toulousain Capitole, et Alain Cerisola, diacre et ancien président du Secours catholique Ariège-Haute-Garonne. On va donc parler maintenant de l'actualité sociale de la France, en tout cas l'actualité sociale imminente, et donc de cette grande grève du 5 décembre prochain. J'ai trouvé ce titre qui pourrait peut-être qui soulèvera bien des questions. On y reviendra peut-être dans un deuxième temps. 5 décembre, grève des nantis ou grève par procuration. Bien des organisations syndicales, elles sont tellement nombreuses que je ne vais peut-être pas les citer. Allez, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC ont décidé d'appeler à la grève. La CFDT et la CFTC sont plus réservés, même s'ils suivent leurs compères sur certains points particuliers. On parle donc d'une France bloquée. Il y a toujours le spectre des grandes manifestations de 1995 qui règne. Et Emmanuel Macron a dit récemment dans une interview à RTL sa détermination à aller jusqu'au bout. Pas de faiblesse sur la réforme des retraites. Je veux aller au bout de cette réforme. Bruno Cyr, pour commencer, puisque c'est aussi le propos un peu de cette émission, d'emmener tous ceux qui ne suivent pas l'actualité pied à pied, ou jour après jour, les grandes mesures, on parle de repousser l'âge donc, de départ à la retraite, 64 ans. Quels sont les différents leviers que l'État a sur la question des retraites?
Bon, traditionnellement, il y a deux leviers, bien évidemment. C'est le taux de cotisation. Je rappelle que le principe, c'est que les actifs financent les retraites des non-actifs, de ceux qui ont cotisé mais qui ne sont plus actifs. Donc, il y a le taux de cotisation qui pèse sur les actifs pour financer la génération précédente. Et le deuxième variable, évidemment, c'est la durée de cotisation. Chaque fois qu'on la rallonge, eh bien, on augmente le temps pendant lequel les actifs cotisent. Bon.
Puis il y a le montant des prestations aussi, quoi.
Et il y a le montant des retraites, ouais.
Alors, il y a le montant des retraites qui, effectivement... mais bon, ça, c'est un sujet sur lequel on ne vient que par la petite porte, je dirais. Parce que, en réalité, quand vous augmentez le temps de cotisation, il se trouve qu'il y a tout un tas de gens qui n'auront pas la durée nécessaire lorsqu'ils partiront à la retraite et qui, de ce fait, auront une retraite qui sera réduite. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de jeu comme ça qui se fait sur les prestations versées. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui fait des études jusqu'à 25 ans, ce qui est monnaie courante, s'il veut avoir 42 ans de cotisation, il faudrait qu'il parte à la retraite à 67 ans. Il y a très peu de gens qui partent à la retraite à 67 ans. La plupart des gens sont partis avant. Donc, les cadres, en général cadres, qui ont fait des études un peu longues et qui n'ont pas cotisé par définition dans leurs études puisqu'ils ne sont pas salariés, se retrouvent avec des prestations tout à fait réduites. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'organise. Alors, pourquoi le problème ? Il y a quand même un point qui...
Excusez-moi, j'ajoute juste un point, c'est que donc la proposition nouvelle et radicale que fait le gouvernement, c'est donc aussi de passer à un système universel et de retraite à points. Alors, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la retraite à points ?
Alors, il y a un autre élément de contexte quand même qu'il faut garder présent à l'esprit parce qu'on entend beaucoup de bêtises sur cette question. C'est que là, on est dans un sujet qui est un serpent de mer depuis quelques années, tout le monde s'en est rendu compte. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que c'est la conséquence du baby-boom. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une génération d'après-guerre qui est née de façon importante qu'on a appelée le baby-boom. Et maintenant, ce sont les gens qui partent à la retraite maintenant. Et comme en même temps, il y a eu un phénomène d'accroissement de la durée de vie, évidemment, il y a un niveau de prestation à fournir qui pèse de façon... dramatique, je dirais, sur les actifs.
Et une augmentation aussi des chômeurs depuis maintenant quelques décennies.
S'il n'y avait pas les chômeurs, le problème resterait quand même en grande partie. Donc c'est pour ça que ce sujet est un sujet dont on ne finit pas de parler.
C'est quoi le système universel, juste Bruno Cyr ?
Alors le système universel, c'est quoi ?
Avec suppression donc, de tous les régimes spéciaux à l'occasion de cette réforme.
Voilà, au fond, si vous voulez, il faut bien appeler les choses comme elles sont. Il y a des gens,
par point.
Tout le monde n'est pas à égalité dans ce système. Et ça va même contre le principe d'égalité qui a été posé par la Constitution française dans la Déclaration des droits de l'homme, qui est un principe d'égalité de droit. Or, en matière de retraite, on n'est pas dans un système d'égalité de droit. Il y a des gens qui, pour des raisons diverses et variées, au fil du temps, ont réussi à négocier un certain nombre d'avantages sur la durée ou sur les taux de cotisation.
42 régimes spéciaux en France.
Voilà. Oui. Et donc ça, c'est un régime inégalitaire et avec des gens qui donc ont au fond des privilèges d'une certaine façon, c'est-à-dire que les privilèges de l'ancien régime qu'on a voulu foutre par terre à la Révolution et qu'on a foutu par terre, le privilège des corporations, le privilège des aristocrates, etc., ben aujourd'hui on en retrouve un certain nombre de gens qui sont avec des privilèges par rapport à d'autres. Donc moi je souscris tout à fait à cette idée que ça serait bien que tout le monde ait une égalité de droit là-dedans, et je crois que c'est l'idée de Macron. Mais évidemment,
retraite à points, c'est quoi ?
Alors la retraite à points, c'est un système qui est censé fluidifier la mobilité professionnelle, parce qu'on constate qu'il y a une mobilité professionnelle qui est de plus en plus forte chez les jeunes, qui travaillent un an là, un an là-bas, etc.
Donc on acquiert des points au long
de...
Quand on arrive à un certain nombre de points, on peut prendre sa retraite.
On peut prendre sa retraite. Donc c'est un système qui va introduire beaucoup de souplesse dans le système. Mais évidemment, quand on dit ça, on a en toile de fond...
Ça dépend de la valeur du point aussi.
Alors, ça dépend de la valeur du point. Ça sera un objet de négociation au fil des décennies. Mais... surtout, ça a un relent de capitalisation, si vous voulez. Et donc, c'est vrai que pour les syndicats qui sont arc-boutés sur l'idée de répartition, le mot capitalisation leur paraît être un chiffre en rouge indépassable. Et les points, ben oui, j'accumule des points, donc d'une certaine façon, je suis dans un système de capitalisation.
Alain Cérisola, est-ce là la seule manière de sauver, en tout cas c'est en fond ce qu'on lit à l'occasion de toutes ces réformes des retraites qui courent maintenant depuis 25 ans, la seule manière de sauver aussi ce qui fait un peu l'honneur de la France, ce pacte social d'après-guerre, un système universel, une solidarité nationale à l'égard des aînés ?
Oui, je vais essayer de répondre à cette question, mais je voudrais situer ce débat sur la retraite dans le contexte général. Force est de constater qu'actuellement, et c'est un euphémisme de le dire, que la situation sociale est très tendue, et ça fait un peu suite à l'affaire des Gilets jaunes. Non seulement les syndicats, mais les catégories professionnelles, les transports, les agriculteurs, la police, les hôpitaux, revendiquent le droit d'être plus reconnus, revendiquent le droit d'avoir plus de moyens. Alors toutes ces revendications sont prises individuellement, peuvent peut-être sembler légitimes, mais il y a quand même le problème budgétaire qui est derrière et qu'il ne suffit pas de dire, comme je l'ai entendu très récemment, il suffit de taxer le capital pour trouver de l'argent. Ce n'est pas la bonne réponse. Alors, le système des retraites. Le système des retraites, comme ça vient d'être dit, est actuellement assez inégalitaire avec tous ces régimes spéciaux. On peut comprendre d'ailleurs que ceux qui bénéficient des régimes spéciaux le défendent, mais depuis des décennies, on tourne en rond. Alors, on allonge un peu la durée de cotisation, on bricole un petit peu. L'idée actuellement, ça vient d'être rappelé, c'est de mettre tout ça à plat, d'avoir un régime unique qui est le même pour tout le monde, avec peut-être quelques variations, quelques ajustements en fonction de la pénibilité, en fonction d'un certain nombre de critères. Mais je crois que l'idée est tout à fait intéressante. Alors La difficulté, c'est que on n'est pas en France dans une culture du compromis. Hein. Et moi, quand j'entends certains syndicats dire on lâchera rien, c'est pas ça la discussion. Si on lâche rien, c'est qu'on refuse le dialogue. Et le gouvernement de son côté.
Rien de nouveau sous le soleil.
Mais il y a rien de nouveau. Mais on ne sortira pas de ce climat social difficile si on n'arrive pas à une culture du dialogue, de compromis, pour arriver à la meilleure solution possible.
Alors c'est pour ça que la CFDT aussi peut-être est la. Voilà. CFTC n'ont pas appelé à ce grand mouvement de grève.
Voilà. Moi, je trouve assez sage la position de la CFDT qui dit, on n'est pas complètement satisfait, mais attendons de voir. Alors, c'est vrai que le gouvernement actuellement est un petit peu hésitant. On ne connaît pas bien le projet. Bon, il y a le régime, une réforme systémique, pour reprendre le terme, avec ce régime à points, mais on n'en connaît pas les détails. Et moi, je comprends très bien que les partenaires sociaux, ils disent, oui, mais on voudrait savoir où on va avant d'aller plus loin. Mais je crois qu'il faut arriver à se mettre autour d'une table et à discuter et que chacun mette un petit peu d'eau dans son vin pour arriver au meilleur système possible.
Alors moi j'ai une question justement sur la question du dialogue social en France. C'est évidemment tout le monde l'a dit qu'à l'occasion de la crise des Gilets jaunes, c'était donc aussi la crise des fameux corps intermédiaires, ceux qui sont censés représenter l'expression est mal choisie, mais on va dire le peuple auprès des instances gouvernantes, et que donc il y avait une crise du syndicalisme, une crise du journalisme, etc. etc. Est-ce que ces grandes grèves, ça va pas être l'occasion aussi de voir si en fait un nouveau modèle de dialogue social émerge, parce que peut-être que ces grandes grèves promises comme celle de 95 vont faire pchit et qu'il va falloir réinventer quelque chose derrière, et que la CFDT peut-être est un peu... CFDT, CFDC sont un peu des poissons pilotes sur le sujet. Bruno Cyr.
Oui, je partage votre analyse et j'espère que c'est le cas. Parce qu'il y a quand même dans nos corps sociaux un rejet du système établi. Et les syndicats font partie du système. Et quand je dis syndicats, c'est les syndicats ouvriers, mais aussi les syndicats étudiants, parce que là, on va avoir une convergence le 5 décembre. Il y aura l'UNEF et à côté de la CGT, etc. Il ne faut pas en douter. Bon. Donc, on essaye de faire un melting pot en agrégeant les mécontentements et en bloquant le pays, comme toujours, là où on peut le bloquer, c'est-à-dire dans les transports. Alors, où est-ce que ça ira? Comment ça finira? Moi, je ne suis pas devin, c'est bien trop tôt pour le dire. Mais une des pistes de sortie, c'est peut-être que finalement, le corps social, comme vous disiez, qui a été exprimé à travers les Gilets jaunes et qui exprime un rejet de tout ça, ne va pas forcément embarquer là-dedans. Donc, on verra.
Il demande quand même aussi un nouveau dialogue social. J'ai souvenir aussi de Bernard Ibal, qui est quand même conseiller spécial du président de la CFTC, qui souvent, sur ce plateau, dit « Moi, le président me demande de lui faire des fiches, mais les gouvernements, en fait, vont tellement vite et font tellement sans les corps intermédiaires qu'en fait, on n'arrive plus à suivre. Et c'est aussi la mort du dialogue social. »
Oui, alors il faut peut-être réinventer un dialogue social. Le problème, c'est que aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux et des mouvements spontanés que peuvent générer les réseaux sociaux, ça c'est un contexte sociologique qui est totalement nouveau, on ne sait plus trop avec qui discuter. Quoi. Ça a été le cas avec les Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes n'auront pas ou très peu de représentants dans les institutions où ils pourront dire qu'ils prennent la parole au nom d'eux. Donc ça, c'est assez dangereux, effectivement. Mais en même temps, je crois que l'ancien système qui consiste à bloquer le pays là où on peut le faire pour bloquer toutes les réformes, moi je suis contre. Je suis très heureux qu'il y ait la CFDT et la CFTC qui n'aient pas embarqué dans le truc parce qu'il y a incontestablement du grain à moudre. Si on regarde bien ce que propose le gouvernement aujourd'hui, il y a encore beaucoup de zones de flou. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de marge de négociation. Et encore une fois, on avancera si les gens se mettent autour d'une table et acceptent de faire un pas l'un vers l'autre. Et pas en disant on ne lâchera rien avant même de commencer.
Alain Cerisola.
Oui, oui. Il faut absolument réinventer un nouveau dialogue social en France parce qu'il n'y a pas vraiment de dialogue social. On commence par la grève, on commence par les épreuves de force, on discute après.
Sauf qu'aujourd'hui, la meilleure illustration, c'est plutôt la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire,
la crise des Gilets jaunes a montré quelque chose, a montré une voie qui est tout à fait intéressante. Le grand débat d'Emmanuel Macron est tout à fait intéressant. C'est une voie à suivre. Mais ce que je veux dire sur la question des retraites...
Même si les Gilets jaunes ne se sont pas tout à fait reconnus dans le grand débat. Mais bon, ça, c'est un autre sujet.
Ouais.
Allez-y, finis.
Non, ce que je veux dire sur l'histoire des retraites, c'est qu'il faut avoir un langage clair. Les régimes actuels sont déficitaires. La commission Idoine sur les retraites le dit, en 2025, il y aura plus de 10 milliards de déficit. Il faut absolument dire, et même si c'est dur à entendre, qu'on ne s'en sortira pas si l'on ne travaille pas plus longtemps.
Ou si on fait des enfants aussi, non, peut-être, vous en parlez pas. Il faut faire des enfants aussi.
Mais d'entendre dire que comme on entend... La retraite à 60 ans, non, maintenant, il faut travailler plus longtemps. Je crois qu'on ne peut pas augmenter les cotisations, on ne peut pas toucher aux pensions. Donc le seul levier, comme a dit Bruno Cyr tout à l'heure, c'est l'allongement de la durée de cotisation. Et ça, il faut le dire clairement, et à partir de ça, discuter. Mais alors, il y a tout ce débat sur l'âge pivot qui tourne un petit peu autour, est-ce que c'est 62 ans, est-ce que c'est 64 ans, mais enfin, il faut dire clairement qu'il faudra travailler plus longtemps. Et moi, ça me semble pas tellement choquant de dire que en 2025, en 2030, on travaille jusqu'à 64 ans plutôt que de prendre la retraite avant 60 ans comme c'est actuellement le cas.
On peut citer l'exemple de l'Allemagne, dans un article du journal La Croix, article intitulé « Une future retraite universelle mais avec des spécificités », il y avait un encadré qui rappelle qu'en Allemagne, le Bundestag, eux, préconise un départ à la retraite de 69 ans, quand la France donc propose un âge pivot de 64. Il y aurait des échéances progressives, 65, 67, pour 67 en tout cas c'est pour 2029. Mmh. Voilà. Mot de la fin sur les retraites et après on fait une pause.
Il y a peut-être une autre voie de sortie qui pour l'instant n'est pas explorée en France et je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Comme de toute façon, à moyen terme, c'est-à-dire un horizon de 4-5 ans maximum, le système tel qu'il est ne sera pas viable par les générations au travail. Donc il y aurait un autre système qui consisterait à dire... Par la répartition, l'État garantit une retraite minimum à tout le monde avec jusqu'à un certain plafond. Et au-delà, ceux qui gagnent plus, c'est une affaire d'entreprise. Et donc, ils renvoient la balle aux partenaires sociaux pour négocier entreprise par entreprise ou éventuellement branche par branche, où chacun se gérerait une sorte de cagnotte additionnelle pour ceux qui gagnent au-delà de ce plafond.
C'est une forme de capitalisation, mais à l'intérieur même de l'entreprise.
Une combinaison de répartition et de capitalisation. Une répartition pour tous les gens qui seraient, par exemple, deux fois ou trois fois le plafond de la sécurité sociale, ce qui fait déjà beaucoup de monde. Et pour les gens qui sont au-dessus, c'est-à-dire les cadres supérieurs et cadres dirigeants, on vous garantit ça, mais si vous voulez plus, débrouillez-vous par vous-même avec votre entreprise, votre organisation. Je pense que c'est une des voies de sortie qui mériterait d'être creusée.
Allez, on fait une deuxième pause musicale. On en reparlera de façon de la réforme des retraites parce que même si les manifestations, si les grèves ne sont pas celles de 95, certainement qu'en janvier, on aura quand même l'occasion de revenir sur ce sujet. On fait une pause et puis on va parler donc nucléaire après les déclarations. l'intervention, on va dire, du pape François qui enfonce, semble-t-il, définitivement le clou de la position de l'Église sur le sujet.
Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce vendredi matin, émission d'actualité. Autour du plateau, nos deux invités de ce mois-ci, Bruno Cyr, économiste, président honoraire de l'Université Toulousain Capitole, et Alain Cérizola, diacre, ancien président du Secours catholique Ariège-Haute-Garonne. Donc dans cette dernière partie, on va pour une fois parler un peu de l'actualité ecclésiale, mais c'est une actualité ecclésiale qui touche un sujet, on va dire, tellement large, donc on s'est dit que c'était tout à fait justifié. Le pape François était donc en voyage au Japon, pays où les catholiques sont une extrême minorité, et le pape François a pris des positions, dit-il, irrévocables, qui engagent irrévocablement l'Église quant à la promotion de la paix et la lutte contre les armes nucléaires. L'Église, on va dire, avait déjà par le passé, on détaillerait un peu, émis bien des réserves sur ce sujet, mais le pape François va plus loin. En quelques phrases, il juge à nouveau immoral la possession des armes atomiques, déclaration qu'il avait déjà faite il y a 2 ans. Il critique la dissuasion nucléaire et il rappelle que la véritable paix est une paix désarmée. Bien d'autres choses et bien d'autres extraits, je les citerai au fur et à mesure. Alain Cérizola, est-ce qu'il n'y a pas deux attitudes face à cette actualité? La première, c'est une très grande admiration pour ce pape et la radicalité de son propos évangélique, comme il en est coutumier. Et la deuxième, c'est qu'on peut très bien aussi se balayer ça en se disant « Mon Dieu, quel doux rêveur, la véritable paix est une paix désarmée. » Après ce qu'on a cité comme actualité au début de l'émission, ça peut paraître bien loin de la réalité. Quel est votre sentiment suite à cette déclaration, prophète ou doux rêveur ?
Ouais, non, mais vous posez bien la question. D'abord, il faut rappeler, vous l'avez dit, une évolution la position de l'Église. Jusqu'à maintenant, l'Église condamnait l'usage et pas la possession. Hein, Jean-Paul II avait dit c'est un mal nécessaire, et le pape François va beaucoup plus loin en condamnant et l'utilisation, bien sûr, mais aussi la possession d'armes nucléaires. Alors, est-ce un doux rêveur ou pas? Est-ce qu'il faut être naïf ou pas naïf? Enfin, moi je crois que la déclaration du pape est assez prophétique. On peut pas parler réellement de paix, on ne peut pas tendre la main aux autres en ayant sous le coude une arme de destruction massive qui peut faire, avec une seule bombe, des centaines de milliers de morts. Moi, je crois que le pape est courageux, il faut avoir le courage d'être courageux, comme le dit le pape François, et c'est une position qu'il faut défendre. Alors, bien sûr, on peut dire qu'on est naïf, on peut dire que certains ont la bombe et pas d'autres, etc. Mais je crois que si l'on dit pas l'arme nucléaire est à bannir et à proscrire et à détruire, hein, il faut le dire fort et négocier par rapport à ça. Discuter avec les pays qu'ils possèdent. Voilà.
C'est prophétique, ça veut dire qu'on peut rêver d'un monde un jour sans l'arme nucléaire?
Moi je crois que on peut non seulement rêver, mais espérer un monde sans l'arme nucléaire, parce que c'est une arme de destruction massive qui résout pas tous les problèmes. D'ailleurs, on le voit, il n'y a pas besoin de bombe atomique pour faire du mal, voir le 11 septembre, voir les attentats terroristes, etc. C'est un recours extrême. Alors, ceux qui le possèdent disent, mais on s'en servira pas, c'est la dissuasion, c'est pour qu'on nous attaque pas. Mais il y aura toujours quelqu'un pour disjoncter, pour s'en servir de cette arme nucléaire, ce qui serait vraiment une catastrophe. Donc le pape a raison, le pape est prophétique en disant arrêtons les armes nucléaires, détruisons-les. Bon, alors il y a eu un accord qui a été fait pour l'interdiction des armes nucléaires, qui a été signé par plus d'une centaine de pays, je
crois. Traité sur l'interdiction des armes nucléaires, on appelle ça aussi Tian, et le Saint-Siège a été signataire.
Voilà, alors c'est ça qui est important. Les États qui possèdent actuellement la bombe atomique ne l'ont pas signé, mais le Saint-Siège en 2017 l'a signé. Donc il faut aller dans ce sens-là, comme un accord avait été signé pour l'interdiction des armes chimiques. Il faut que les pays qui possèdent la bombe atomique signent cet accord et que à partir de là, l'on puisse discuter pour la destruction de toutes ces armes nucléaires qui sont stockées en des nombres considérables dans certains pays. Très peu de pays d'ailleurs, mais...
13 890 ogives nucléaires dans le monde, dans 9 pays. La Croix donc faisait une carte, c'était dans son édition du 22 novembre. 3 800 pour les États-Unis, 4 330 pour la Russie, la France 300, la Chine 290. Alors on voit aussi une courbe, ça a diminué depuis les années 90. La dissuasion nucléaire, c'est vrai que c'est difficile de ne pas se dire que c'est immoral. Vous pouvez rappeler quand même en deux mots ce que c'est que cette théorie de la dissuasion nucléaire qui fait que, enfin théorie validée par la France, qu'Emmanuel Macron a rappelé au début de son pontificat comme légitime. Bruno Cyr, c'est pareil, dans un souci de pédagogie.
Permettez-moi de vous corriger, Emmanuel Macron, c'est pas un pontificat, c'est un mandat.
J'ai dit pontificat, non, vous avez raison. C'est la fin de la semaine, je suis fatigué.
Plus sérieusement...
La dissuasion fait partie de notre histoire et de notre stratégie de défense, elle le restera.
Voilà, bon, c'est le vieil adage, si tu veux la paix, prépare la guerre. Bon, donc c'est ça la théorie, il faut dissuader les gens de nous agresser.
L'équilibre de la terreur aussi.
L'équilibre de la terreur, voilà. Sauf que l'équilibre de la terreur, il y a toujours un fou à un moment donné, pour malheureusement faire ce que ses prédécesseurs avaient juré qu'ils ne feraient pas. C'est le risque que l'on prend. Et donc, je rejoins tout à fait ce que disait Alain Cerisola, ça ne sert à rien d'accumuler cet équilibre de la terreur. Alors, je voudrais donner un élément de contexte supplémentaire et qui fait que ce message du pape, qui est totalement dans son rôle lorsqu'il dit que tout ce qui est engin de mort ne peut pas être défendu par des chrétiens. Je trouve que ça, c'est la moindre des choses qu'on attend de l'Église. Oui, nous ne sommes pas une religion de mort, et nous sommes une religion de vie, et donc on ne peut pas être pour des engins de mort, de façon générale, et notamment sur des engins aussi terrifiants que ceux-là. Donc c'est très bien, le pape est dans son rôle. C'est pas dans la naïveté de le dire, c'est son rôle de le dire en tant que, justement, leader d'un message, de porteur d'un message qui est celui du Christ et qui nous dit que c'est l'amour qui sauvera le monde et sûrement pas la dissuasion nucléaire. Voilà. Donc ça, moi, je rejoins tout à fait ça. Mais il y a un élément de contexte qui fait que cette parole est particulièrement bienvenue. C'est qu'aujourd'hui, on constate dans les grandes puissances un repli sur soi. Les Américains, évidemment, sont à la manœuvre pour ça. Et ce repli est en train de provoquer un réarmement. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que les pays, effectivement, qui commencent à développer...
Exemple,
les Russes sont en train de se réarmer. L'Iran est en train de se réarmer alors qu'il l'avait abandonné. Les Chinois n'ont jamais dit qu'ils allaient limiter leur production nucléaire.
290 ogives nucléaires. Hein. Et puis, il faut quand même citer aussi la Corée du Nord. Hein, parce que,
la Corée du Nord, etc.
25 ogives nucléaires.
Voilà, donc il y a tout d'un coup, alors qu'on avait fait de gros efforts pour essayer justement de dire il faut arrêter ça, eh ben c'est en train de repartir. Et heureusement qu'il y a le pape pour dire attention, vous êtes à contresens de ce qu'il faut. Et il faut absolument arrêter ça. Et je suis totalement d'accord avec lui. Ce n'est pas le message que nous devons porter. Le message que nous devons porter, c'est au contraire de développer des accords de commerciaux, des accords d'échange qui fassent que l'équilibre se fera parce qu'on aura des intérêts communs les uns les autres et pas chacun chez soi avec un arsenal nucléaire pour dissuader les autres de venir vous prendre une partie de ce que vous avez fabriqué. Donc moi je suis partisan d'une mondialisation interdépendante, d'une interdépendance des pays, avec un équilibre qui se trouvera, qui sera sur un équilibre
basé sur... Qui ne sera pas l'équilibre de la terreur.
Voilà. L'intérêt bien compris des uns et des autres.
Je cite un autre élément d'actualité, hein, pour que tout le monde l'ait en tête. Il y a eu aussi cette campagne, hein, qui a donné lieu à un prix Nobel de la paix, campagne pour l'abolition des armes nucléaires. C'est un prix Nobel de la paix récent, je me demande si ce n'est pas celui de l'année dernière. Et puis alors, il y a une autre citation du pape François, je voulais qu'on s'arrête dessus. Quand nous nous livrons à la logique des armes et nous éloignons de la pratique du dialogue, nous oublions tragiquement que les armes, avant même de faire des victimes et des ruines, peuvent provoquer des cauchemars. Et puis le pape François parle des énormes dépenses. Dans le monde d'aujourd'hui, où des millions d'enfants et de familles vivent dans des conditions inhumaines, l'argent dépensé et les fortunes gagnées dans la fabrication, la modernisation, l'entretien et la vente d'armes toujours plus destructrices sont un outrage continuel qui crie vers le ciel, dit le pape François. Et c'est pas la première fois qu'il le dit, il l'avait dit lors de son voyage en Terre Sainte. La France est dans le peloton de tête de la vente des armes. On dit qu'il y a même des armes françaises qui sont utilisées dans la guerre au Yémen. Il y a aussi bien des chrétiens qui travaillent dans ce commerce, hein, jusqu'en France. Alain Cerisola, c'est un commerce qui crie vers le ciel.
Ouais, je voudrais ajouter deux choses. Effectivement, la question du coût. Ces armes nucléaires, ces bombes atomiques, et d'une façon générale, tout l'armement coûte une fortune. Et on parlait tout à l'heure de la crise sociale, des retraites et de l'insatisfaction de certains salariés. Et il y a de l'argent à récupérer dans le domaine militaire qui pourra aller mieux pour le bien-être des personnes.
Sauf que c'est pas tout à fait comme ça qu'on peut réfléchir, non? Parce que là, en l'occurrence, ce sont des emplois créés, c'est un commerce, c'est un business.
Mais ça rapporte à la France.
Oui. C'est sûr que ça rapporte, mais il n'en demeure pas moins que si on se désarmait, on ferait des économies sur le point de vue le budget militaire qui pourrait être mieux utilisé ailleurs. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose, c'est que non seulement le pape a raison de prendre cette position, il est dans son rôle, mais ceci dans le rôle de tout chrétien, de soutenir cette position. Moi, je pense par exemple que il y a quelques jours, on a eu la fête du Christ roi, hein, où le Christ roi de l'univers, mais roi d'amour, qui n'était pas assis sur un trône, le même Christ qui a dit à Pierre de remballer son épée lorsqu'il a voulu défendre le Christ, lorsqu'il a été arrêté. Hein. Donc toute la violence sous l'armement est à bannir, et tout chrétien doit s'engager dans ce domaine-là. Alors je rebondis bien sûr sur ce que vous avez dit initialement. Il faut
quand même des forces armées.
Il faut pas être naïf. Il faut des forces armées. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir sous le coude la possibilité d'appuyer sur un bouton qui fera d'un seul coup une destruction énorme et des centaines de milliers de morts, c'est absolument indéfendable, et il n'y a aucune cause au monde qui peut justifier l'emploi de l'arme atomique. Donc le pape a tout à fait raison de dire « détruisons l'arme nucléaire ».
1983, dans Gagner la paix, rappelait Lacroix cette semaine, les évêques français refusent le recours à la guerre, à trop centrer l'attention sur la guerre nucléaire. Donc, il parle de la guerre nucléaire. On risque de minimiser aussi les guerres conventionnelles modernes. Est-ce qu'on peut, Bruno Cyr, exister dans le concert des nations sans être une puissance atomique? On peut imaginer ça pour la France demain,
ou alors, est-ce que l'Allemagne n'est pas une puissance atomique?
On va devenir encore.
Il y a des pays qui existent. On existe par sa capacité produire de la richesse. Et produire de la richesse, c'est l'exemple de l'Allemagne, hein, qui effectivement est installée dans des relations commerciales avec tout un tas de pays en voie de développement et ont un impact considérable parce qu'ils sont les acheteurs, les clients d'un certain nombre d'industries dans les pays en voie de développement, et c'est parce qu'ils contribuent à développer ces industries qu'ils aident finalement ces pays. Donc, est-ce qu'on peut exister sans une dissuasion, sans des forces d'intervention? Je pense qu'il ne faut pas passer à l'extrême où on dirait n'importe qui peut venir chez nous et nous prendre tout ce qu'on a. Il faut être capable à un certain moment de défendre ses intérêts et ses acquis, mais ça devrait être d'ailleurs le rôle de l'Europe et pas uniquement de la France, et c'est sûrement pas par de la dissuasion nucléaire qu'on y arrivera. Moi je crois beaucoup plus à l'interdépendance des pays parce qu'ils sont dans des jeux commerciaux qu'à une dissuasion nucléaire pour préserver la paix. Vous n'avez pas intérêt à tuer votre client ou à tuer votre fournisseur, parce que sinon vous vous pénalisez vous-même. C'est ça que nous apprend la seconde moitié du XXe siècle, et c'est ça qu'il faut développer au XXIe siècle. Moi, je suis effaré quand je vois un retour vers les protectionnismes et qu'on établit des murs autour de ces frontières, si vous voulez. C'est très dangereux.
Je rappelle, la véritable paix est une paix désarmée, citation du pape François, et pour ceux qui le prennent pour un doux rêveur, je rappellerai aussi qu'en janvier 2018, dans l'avion vers le Chili, et rappelez aussi le journal La Croix, le pape François distribue aux journalistes qui l'accompagnaient une carte de vœux. D'un côté, un petit garçon japonais, lèvres serrées, attendant son tour pour faire incinérer le cadavre de son petit frère tué par la bombe atomique de Nagasaki le 9 août 1945, et de l'autre, ces simples mots, le fruit de la guerre. Un doux rêveur qui a de la suite dans les idées, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église ce matin, et rendez-vous est donné donc le mois prochain. Ça sera donc au mois de janvier. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.